d'huile de ce
Il y a un
satellite.
principe de non-appropriation de l'espace au sens large et des corps célestes qui peuplent cet espace. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas revendiquer un territoire dans l'espace ou sur la Lune. Alors, on a tout un tas d'interprétations qui se font jour avec des débats entre les juristes parce que certaines entreprises privées, voilà, poussées par des gouvernements, notamment américains, veulent exploiter, avaient le projet d'exploiter. Alors ça baisse un petit peu parce qu'on se rend compte qu'effectivement c'est extrêmement complexe, coûteux et sans doute très futuriste. Mais il y avait cette idée et Barack Obama d'ailleurs, hein, pas Donald Trump, a signé une loi en fin 2015 permettant à ces entreprises d'exister, etc. Aujourd'hui, c'est en discussion pour savoir si ces entreprises et si leurs entreprises contreviendraient au droit international. Un certain nombre de juristes vous disent oui, d'autres sont en train d'évoluer en disant qu'il faut faire évoluer le droit, etc. Donc on voit qu'il y a une discussion. Aujourd'hui, il faut être clair, l'espace reste un bien commun de l'humanité et l'appropriation d'une partie de l'espace n'est pas autorisée.
Mmh. On va écouter le gentil héros de l'espace français, Thomas Pesquet.
Thomas Pesquet,
vous
qui répondait en septembre dernier à une question qu'on lui posait sur un projet. En dépit de vous, le projet d'Elon Musk, milliardaire américain, pardon, d'origine sud-africaine, d'emmener un touriste sur la Lune, c'est un milliardaire japonais, Yusaku Maezawa. Voilà ce qu'en pense M. Pesquet, notre astronaute de ce projet.
S'il y a des volontés privées, s'il y a des volontés internationales, eh bien, très bien, ça participe au même effort. On leur souhaite tout le meilleur. On espère que ça marchera. En même temps, nous, l'expérience qu'on en a, c'est que souvent, quand on fait des plans, eh bien, c'est plus compliqué que prévu.
Xavier Pascaud, la conquête de l'Ouest,
non,
pas seulement l'État.
Oui.
Pardon, Alain Sirou, je peux pas me partir, moi. Je suis dans la Lune. La conquête de l'Ouest, la vraie sur Terre, c'était tout aussi bien des intérêts privés que des intérêts étatiques. On peut avoir une mystique et une poésie avec M. Musk, comme on avait avec la conquête des années 60.
Mais ça n'a pas changé de ce côté-là. C'est-à-dire qu'effectivement, ça reste la conquête de l'Ouest pour des privés. Elon Musk a la possibilité de s'offrir. Je dirais des explorations spatiales comme d'ailleurs le patron de Facebook Jeff Bezos qui est son
et
challenger qu'on n'a pas encore vraiment vu mais qui arrive aussi avec un paquet de fusées. Donc les privés bien sûr ont la capacité de le faire, mais encore une fois moi je reviens sur cette idée que on avait dans les années 60 la propagande, c'est-à-dire la course et puis on la mettait en scène, et aujourd'hui ça s'appelle Elon Musk, ça s'appelle une voiture qu'on expédie à bord d'une fusée pour montrer qu'on est capable. C'est de la propagande aussi, c'est-à-dire c'est de faire croire que derrière ça, il y a une vraie histoire. Or, on est vraiment dans le rêve, c'est-à-dire que l'espace est un facteur de rêve, et quand on s'y frotte, quand on regarde vraiment les chiffres, la technologie, la science, etc., ça se réduit de façon extrêmement considérable, et c'est ça qu'on a du mal à percevoir. Moi, Pesquet, quand je vois cet astronaute qui part dans l'espace, il part, tout le monde pense qu'il part dans les étoiles. Tout le monde pense qu'il part conquérir la Lune, Mars,
alors
etc.
Que...
Et qu'est-ce qu'il nous envoie comme image ? L'image de la Terre.
Oui.
Et tout d'un coup, il revient, il est écolo. Tiens, c'est bizarre. Comme les astronautes d'Apollo dans les années 60. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? La Terre. Et ils le disent. Ils disent qu'en fait, finalement, le point de vue qu'on a à partir de l'espace, le plus important, c'est le nôtre. C'est-à-dire qu'on reste anthropocentré, certes, mais on est un peu décalé. Et ce décalage nous permet de nous rendre compte que finalement, la crise de la biodiversité, la crise climatique, va avoir besoin de toutes les solutions, y compris des solutions spatiales, qui vont nous raconter qu'ailleurs, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de planète miracle sur laquelle on va se déplacer. Et quand un Elon Musk vous dit « oui, on ira sur Mars faire des colonies parce que c'est là où les hommes pourront revivre », tout ça, c'est pipeau, on le sait. Pipo. Et pipo, c'est du rêve aussi, mais c'est aussi de la réalité.
Et c'est là aussi où il faut revenir aux origines de l'exploration spatiale. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'exploration de la Lune dans les années 60, c'est un affrontement de modèles. Il y avait vraiment la volonté de la part des États-Unis, la crainte d'abord de la part des États-Unis, que les premières soviétiques expriment une supériorité du modèle soviétique au lendemain de la guerre, au moment où on construit le monde finalement, au lendemain de la guerre. Et d'ailleurs, ils avaient des craintes un peu, comment dire, fondées, puisqu'ils avaient fait des enquêtes auprès de leurs principaux alliés, qui effectivement commençaient à se poser des questions. Même aux États-Unis, dans les débats américains, au Congrès par exemple, d'aucuns mettaient en doute quand même le fait, on appelait ça la butter economy, l'économie du beurre. C'est bien d'avoir une économie capitaliste où tout le monde peut jouir de la consommation, mais pendant ce temps-là, on ne fait rien. Les autres qui ont des plans quinquennaux, ils marchent beaucoup mieux que nous.
Les autres, les soviétiques.
Et donc Kennedy, sa décision d'aller sur la Lune, c'est une décision de modèle. Aujourd'hui, on n'a pas du tout. Et là, c'était la course. Et là, on va avoir des. Ça va être scandé par des étapes, Mercury, Gemini, et les Russes vont être toujours devant jusqu'à l'atterrissage de la Lune. On n'a pas du tout cette configuration aujourd'hui. les États-Unis voudraient effectivement, et il y a eu un message de la part de Pence d'ailleurs, de Trump et de Pence, sur le fait qu'on était dans une course à nouveau. Mais ça ne répond pas quelque part en face.
Ça ne répond pas en face. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas cité la Russie. Aucun de vous n'a cité la Russie qui est complètement hors course.
La Russie adorerait coopérer avec n'importe qui, c'est-à-dire avec les Chinois, avec les Européens, puisqu'on a aussi quand même ce concept du village lunaire européen, du Moon Village, qui est là encore l'idée qu'on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose en coopération et tous ensemble. Et donc la Russie, elle se tient un petit peu en arrière.
Elle investit moins, elle a un budget moins important.
Elle n'a pas les moyens.
Ça fait des années qu'elle n'investit plus. Et puis surtout, elle n'a pas de projet politique porteur derrière. Donc elle ne va pas se mettre en concurrence avec la Chine parce qu'elle estime qu'elle est devant et qu'elle, elle a déjà ramené des échantillons en mode automatique. La première au monde. Les États-Unis n'ont jamais ramené des échantillons lunaires en mode automatique. Elle a fait 171. Donc, si vous voulez, effectivement, la Russie, son problème, c'est qu'elle n'a pas de projet politique, elle n'a pas de budget. Ça fait très longtemps qu'elle n'investit plus trop dans le domaine de la recherche. Bon, dans les lanceurs, ça revient. Mais si vous voulez, il faut avoir une raison de le faire.
Alors, est-ce que la Lune est une étape vers Mars, Nadia?
Alors, peut-être est-ce de la propagande, comme vous le disiez, mais en tout cas, les États n'ont pas abandonné cette idée d'aller sur Mars. En tout cas, la Chine et les États-Unis préparent deux missions qui sont assez ambitieuse vers Mars. Fin mars, l'administration Trump avait annoncé que les États-Unis allaient envoyer une mission habitée sur Mars en 2033. Il y avait une date qui était prévue à la base qui était 2038, donc ça s'accélère. Et après, effectivement, ça allait très vite, pas tellement en termes de progrès scientifique, mais en termes de communication, encore une fois, puisque le 15 avril dernier, la NASA a publié sur Internet, sur son site Internet, une vidéo qui dévoile les bâtiments qui sont censés accueillir les équipes qui vont atterrir, donc supposément dans une quinzaine d'années. C'est de la modélisation 3D, évidemment, mais c'est quand même assez précis parce qu'on va voir les douches, par exemple, le bureau, les cabines qui sont assez coquettes, et c'est une précision qui est inversement proportionnelle au flou qui est opposé par les Américains aux critiques émises. Elles sont nombreuses à propos de ce calendrier serré. Il y a un institut indépendant à la demande de la NASA, d'ailleurs, qui a remis un rapport qui dit que tout ça est parfaitement irréalisable, autant à cause de contraintes techniques que de contraintes budgétaires. Ils sont d'accord avec vous trois. Et puis, il y a la Chine également, qui est pas moins démonstrative, parce qu'elle veut envoyer un robot sur Mars. Alors ça, c'est dès 2021, sur le même modèle que Lapin Jade, qui était le robot U2. C'est un tout petit machin, effectivement, qui s'était posé sur la Lune. Elle veut également, elle ambitionne en tout cas une mission habitée. Alors en attendant, elle a créé une espèce de parc d'attractions en plein désert de Gobi. On a les images, parce qu'il y a eu des reportages ces dernières semaines. C'est une base spatiale éducative qui va montrer aux visiteurs à quoi la vie pourrait ressembler sur Mars. Xavier Pascaud, au-delà de la science-fiction, parce qu'on a l'impression d'être un peu dans de la SF, est-ce que ça reste quand même, malgré tout, Mars, un objectif pour les États, ou c'est que de la communication et de la propagande, comme le disait Alain Siron?
Ça reste un marqueur à long terme qui aide à axer la R&D, les programmes, la recherche, le développement. Et la NASA, quand elle avait abandonné, il y a quelques années, finalement, ses marqueurs de long terme, puisqu'en fait, on avait abandonné la Lune et Mars paraissait très lointain, s'est trouvé institutionnellement fragilisé. On a compris que, depuis très longtemps, que avoir un objectif à long terme, c'était pas... Un rapport est sorti quand Obama est arrivé au pouvoir, qui a dit pour la première fois, donc Barack Obama arrive au pouvoir, demande un rapport sur la conquête de l'exploration de l'espace. Et l'une des premières phases de ce rapport, c'est de dire ce n'est pas parce qu'une destination existe qu'elle est un objectif. Et ça, c'est la NASA n'aurait jamais pu sortir une phrase comme ça. Il se trouve que c'était une phrase très intéressante, mais qui effectivement a mis la NASA en difficulté, y compris institutionnellement, dans ses rapports avec des gens comme Musk ou comme Bezos, puisque finalement ces gens-là disent avoir des capacités qu'ils ont et disent avoir des objectifs, une vision, quelle qu'elle soit, et aussi bizarre qu'elle puisse paraître. Et du coup, alors que jusqu'à présent, seulement une institution, une agence spatiale pouvait avoir des capacités, une vision, désormais, il y a deux types d'institutions, cette agence spatiale et ces nouveaux acteurs, etc. Alors, effectivement, aujourd'hui, Mars reste essentiellement un outil de propagande pour axer les choses.
Il n'y a pas de date plausible, pardonnez-moi, pour l'arrivée d'un être humain sur
Mars. En 1969, un rapport très important a été remis par l'ANSA au président Nixon, expliquant qu'il y avait, avec la navette, possibilité de créer une base spatiale, et de cette base spatiale, on irait sur Mars. C'est 86.
En 1986.
En fait, à chaque date, en 2086. Vous projetez 40 ans plus tard et vous avez la date d'atterrissage.
Quand vous allez au cinéma voir un film de vampire, si vous ne croyez pas aux vampires pendant le temps du film, vous allez vous embêter. Si vous croyez encore aux vampires, si vous croyez encore aux vampires en sortant, vous avez un problème. En fait, sur Mars, on y est déjà. Et c'est différemment, c'est-à-dire qu'il y a une batterie de sondes.
C'est-à-dire, expliquez-vous.
C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des sondes qui travaillent sur Mars et qui sont extraordinaires. On a une sonde qui s'appelle Curiosity et qui fait de l'exploration depuis des années.
Pas besoin de mission habitée.
Il n'y a pas besoin d'hommes. L'homme, on ne sait pas faire aujourd'hui avec les technologies dont on dispose. Parce que le problème de l'homme, c'est bien sûr, il faut l'amener là-bas. Mais aussi,
combien de temps ça prend ? Combien de temps ça prendrait ?
Alors, ça prendrait sans doute la mission au moins 2 ans en tout, 6 à 9 mois pour y aller, le temps sur place, le retour, etc. Et puis sur place, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien à manger, il y a du bombardement cosmique en continu. Donc ça veut dire qu'on en est dans la phase des robots et de l'exploration pour essayer de raconter comment la planète Mars a pu évoluer, comment elle a pu changer pour qu'elle soit différente de la Terre, alors qu'elle était la même à l'origine. Donc on est vraiment dans une histoire formidable où on n'a pas encore besoin de l'homme, mais l'homme, comme dit Xavier, c'est un but ultime si on est encore là.
Magnifique.